Bonjour à tous pour cette deuxième période. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yvan Lamonde. Yvan Lamonde, vous le savez, est un historien, professeur émérite de l'Université McGill, a été un diplômé de l'Université Laval en 1978, si ma mémoire est exacte, très précisément. Il a fait toute sa carrière à l'Université McGill. Son grand projet... Évidemment, son histoire sociale des idées au Québec, qui, ma foi, achève, n'est-ce pas, puisqu'il ne reste qu'un tome qui couvrira la période 39-65, qui paraîtra quand, Yvan?
Mars
2016. Donc, il couvrira une période de 1760 à 1965. Yvan a écrit avec un certain Jonathan Livernois et Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix, Les intellectuels au Québec, une brève histoire qui est parue. Hein, je vous l'ai pas dit parce que je trouvais que c'était pas... Je pense pas que j'en ai parlé. Je vais pas faire de publicité puis gonfler mes ventes. Puis, on garde ça entre amis. Avec Marie-Andrée Bergeron, Yvan Lamonde, Michel Lacroix et moi-même. Les intellectuels au Québec, une brève histoire. Voilà. Donc, Yvan présente. Il est beau en plus. Il est très beau. Ouais, on est très contents du travail. Voilà. Donc, Yvan va nous parler des moments forts de l'émergence de l'intellectuel au Québec. Et je pense que ce serait une belle façon de boucler la boucle. Et Yvan sera avec nous, bien sûr, pour la suite, c'est-à-dire pour les exposés des étudiants qui tremblent déjà, j'imagine. Si vous ne tremblez pas, vous devriez. Yvan, c'est un être gentil. Voilà, alors je laisse la parole à Yvan. La conférence durera à peu près une heure, et après quoi, nous aurons tout le temps qu'il faut pour discuter, n'est-ce pas?
Oui.
Je vais me tasser.
Bonjour, merci Jonathan de m'avoir... fourni l'occasion de venir exposer et tester mes idées sur les intellectuels au Québec, hommes et femmes. Vous entendrez constamment la double référence. D'abord, un mot pour vous fournir les fondations, si vous voulez, de mon propos. Il y a deux fondations à ces travaux-là. Il y a ce qu'évoquait Jonathan, 40 ans de recherche. Le gris n'est pas naturel, hein? C'est une coquetterie de ma part. Quarante ans de recherche heureuse sur l'histoire des idées au Québec. Donc, qui m'a fait voir ce qu'a été l'histoire intellectuelle du Québec, ce qu'ont été les grands débats d'opinion. Et donc, ça m'a permis d'étudier le contexte et, pour mon grand bonheur, je me suis retrouvé par un accident d'histoire dans un département de littérature, et ça m'a permis d'étudier les textes. Les historiens pensent qu'ils sont les propriétaires de la documentation, qu'ils ont accès au réel, parce qu'ils ont accès à des séries statistiques ou à la correspondance des hommes politiques. C'est une illusion dont ils ne sont pas défaits encore. Mais heureusement, la littérature m'a appris que les historiens doivent réapprendre à lire comme lisent les littéraires, c'est-à-dire avec une ouverture à la polysémie des mots. Donc, 40 ans de plaisir avec les textes et avec le contexte. Et puis, plus directement lié à ce sujet des intellectuels, 40 ans de cueillette du mot. Chaque fois que je trouvais une occurrence du terme intellectuel, je l'ai noté. Ce qui a donné pendant un certain temps une certaine approche nominale de l'intellectuel. Pendant un bout de temps, j'ai considéré qu'il n'y avait pas d'intellectuel au 19e siècle pour un certain nombre de raisons dont on pourrait débattre si vous le souhaitez éventuellement. J'ai été contesté là-dessus, y compris par mes trois collègues. J'ai été converti par mes trois collègues. mais néanmoins, j'ai toujours considéré comme fondamental de connaître les moments d'apparition du terme, les moments d'intensification d'usage du terme intellectuel, comme un indice du fait que les contemporains se définissaient eux-mêmes par ce terme et ne faisaient pas que référer à des intellectuels français, belges ou autres. À partir du moment où le terme devient usuel dans le vocabulaire des milieux lettrés, il y a là un indice du décollage de ce phénomène de l'intellectuel au masculin et au féminin. D'entrée de jeu, alors donc, le mot a été important pour baliser ma construction de la représentation de ce qu'était l'intellectuel à un moment, et on voit bien la récurrence du terme, son usage de plus en plus fréquent et un usage sans réserve, disons, après durant les années 50, 1950. Bon. D'entrée de jeu, clarifions les choses, ce n'est pas parce que quelqu'un écrit, ce n'est pas parce que quelqu'un est un écrivain, ce n'est pas parce que quelqu'un est un essayiste même, ce n'est pas parce que quelqu'un est un universitaire qu'il est intellectuel. L'intelligence n'appartient pas qu'aux intellectuels, alors rassurons-nous. Tout ça pour dire que il y a pour définir l'intellectuel la prise en compte d'une volonté d'intervenir dans l'espace public de façon plus ou moins fréquente, plus ou moins récurrente, mais au terme d'une vie, on finit par reconnaître qu'il y a chez telle femme, chez tel individu, une certaine habitude continue ou alternative d'intervenir dans l'espace public, que ce soit sur le mode oral, mais que ce soit surtout sur le mode écrit. Et c'est ce qui vous a, d'entrée de jeu, vous sensibilise au fait que les revues sont le l'humus habituel de l'intellectuel. Les revues sont souvent fondées par des individus qui ont une vision nouvelle de la réalité, des défis, des aspirations. Alors, toute décennie riche en nouvelles revues d'idées, s'entend, et susceptible d'être une décennie riche en intellectuels, ce qui sera le cas de la décennie de la crise des années 30 et de l'après-guerre. À partir de 1950 et de Cité libre en particulier, mais il y en a d'autres. Donc, il y a une démarche volontaire de la part d'un universitaire, d'un scientifique, d'un écrivain. Il y a une démarche volontaire de s'attaquer à un problème socio-culturel, civique. Je n'utilise pas à bon escient le terme politique pour ne pas le réduire à ses dimensions partisanes. Donc, une volonté d'intervenir sur une question qui oblige l'individu à sortir de son expertise propre. Expertise d'écrivain, de romancier ou de poète qui s'adresse à une question civique, éthique, un historien qui sort de son cabinet pour dénoncer une situation d'un certain type. Bref, un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'engage, intervient dans l'espace public par un discours public qui est en partie différent de son discours propre, usuel. Bon. La première occurrence du terme, c'est en 1901. J'ai failli être battu une fois sur le terrain, mais ma date demeure. Comme vous savez, la date et la mémoire sont l'intelligence des historiens. Hein. Faut pas avoir peur de le dire quand on en est sorti. Mais donc, le premier à utiliser le terme, c'est Léon Gérin, le proto-sociologue. Il est le premier à l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le terme est utilisé par quelqu'un qui est lui-même un sociologue formé à une certaine école française, mais néanmoins un sociologue équipé pour des enquêtes sociologiques et plus globalement un individu qui croit en la rationalité comme approche analytique et descriptive. Et donc, pour moi, l'intellectuel est quelqu'un qui fait, qui tient un discours critique et qui, pour tenir un discours critique, fait un usage intensif, je dirais, de la raison. C'est important pour moi de parler de la croyance, non, pas la croyance, parce que là, ça va devenir ambigu, de la valorisation de la raison pour l'intellectuel, parce que c'est Jean-François Cérinelli qui a publié un bouquin avec... c'est Pascal Horry qui a publié un bouquin avec Jean-François Cérinelli sur l'intellectuel en France depuis l'affaire Dreyfus. Pascal insistait dans un autre bouquin pour dire que pour lui, l'intellectuel, par l'usage et la valorisation qu'il fait de la raison, a quelque chose du laïque au point de départ. L'esprit critique de l'intellectuel en ferait quelqu'un de laïque, c'est-à-dire qui n'est pas astreint à quelque doctrine ou à quelque dogme ou à quelque limite intellectuelle qui viendrait d'une institution ecclésiastique. Et de fait, les premières figures de l'intellectuel français sont des gens comme Zola qui seront traités de Dreyfusards par des gens d'allégeance conservatrice et catholique qui très tôt vont vouloir pour eux-mêmes se voir attribuer l'appellation intellectuelle. Hein? Il y a des intellectuels qui sont intellectuels parce qu'ils sont contre les intellectuels, parce qu'ils sont contre un certain type d'intellectuel qui valorise la raison autonome de part en part. Ce sera le cas au Québec de Tardivelle, par exemple. Bon. la notion est importante parce que il nous fallait, nous, dans cette brève histoire, et dans, je sais pas si tu as eu l'occasion de parler du dictionnaire.
Non, pas vraiment.
Non.
Je suis très, très, très indiqué.
Bon, alors donc, on va en parler à toute sérénité. ça devait être l'introduction à ce dictionnaire des intellectuels au Québec, mais ça a pris une telle ampleur qu'on a jugé bon de le publier à part, mais le projet d'un dictionnaire des intellectuels et intellectuels du Québec est lancé, tous les collaborateurs ont été trouvés, il y aura 133 entrées dans ce dictionnaire, et il nous fallait donc, et le dictionnaire sera en principe publié à l'automne 2017 par les PUM. Je vous parle de ça parce que dans ce dictionnaire, nous avons été confrontés à la question de savoir s'il y avait une telle chose que des intellectuels catholiques et s'il nous fallait inclure des personnages comme l'abbé Grou ou le Père Lévesque ou Jacques Grandmaison et ainsi de suite. Alors donc, c'est pour ça que cette idée d'un intellectuel qui met en valeur la raison, qui lui permet une liberté de pensée totale, ce qui ne serait pas le cas d'un intellectuel catholique, chrétien, protestant, musulman, juifs, qui connaîtraient, eux, des limites, s'ils sont évidemment pratiquants, plus ou moins orthodoxes, qui connaîtraient des limites à leurs propos, y compris sur des questions éthiques ou des questions religieuses, et y compris sur les positions que leur Église propre prendrait sur une question donnée, par exemple, la régulation des naissances durant la décennie 1960. La revue Maintenant, qui était la revue des Dominicains, dirigée bientôt par Hélène Pelletier-Baillargeon, la revue va faire éclater la position de l'Église. Et donc, on voit là que l'appartenance à une confession religieuse n'empêche pas automatiquement un esprit critique, mais un esprit critique qui se paie parfois cher. Alors donc, voyez le genre d'intellectuel auquel nous nous intéressons, un discours critique, valorisant la raison, mais ne se limitant pas à un exercice absolu de la liberté de penser, et un discours critique d'un homme ou d'une femme qui est médiatisé, qui passe par l'expression. Vous pouvez bien, vous, dans votre cabinet, dans votre chambre ou dans votre cubicule à la bibliothèque, critiquer et sortir de vos gonds, mais si vous êtes seul à connaître ce que vous pensez, ça mène pas loin comme positionnement intellectuel. Donc, un discours critique d'un homme ou d'une femme médiatisé. Ça pose un certain nombre de problèmes. Il est clair que vous pouvez comprendre que le J'accuse de Zola, qui est publié dans l'Aurore, rend bien compte du fait que l'intellectuel au 19e siècle et au début du 20e est un usager fréquent de la presse à grand tirage. Donc, le médium de l'intellectuel, c'est beaucoup la presse, c'est beaucoup la revue intellectuelle, pour les nommer au Québec, La Relève, Cité Libre, Amérique française. Bon, il y a des revues plus manifestement intellectuels que d'autres. Donc, médiatisé, laissant donc une trace imprimée pour qu'effectivement on puisse débattre, vous et moi, est-ce que les écrits de X sont vraiment les écrits d'un intellectuel? Si on n'a pas de trace, s'il y a que des conversations téléphoniques qui n'ont pas été enregistrées, il n'y a pas matière à reconnaissance. Mais ça pose aussi le problème plus global de ce que devient l'intellectuel dans une société qui entretient un rapport nouveau et différent avec l'imprimé. Alors, que devient l'imprimé radiophonique? Que devient l'intellectuel radiophonique, hein, qui ne recourrait plus ou qui recourrait moins à l'imprimé? Que devient l'intellectuel télévisuel? Que devient l'intellectuel blogueur, l'intellectuel dans une culture de médias sociaux? Où sont les traces de cela? Nous sommes arrêtés à nos jours dans le dictionnaire, incluant une figure, par exemple, comme celle de Mathieu Bock-Côté, qui est à la fois un jeune universitaire, quelqu'un qui a publié des livres, quelqu'un qui écrit dans la presse à grand tirage, le Journal de Montréal, qui est un blogueur et qui utilise beaucoup les médias sociaux. On peut donc suivre Mathieu Bock-Côté, mais plus ça va, plus il est difficile à suivre pour un certain nombre de raisons, dont la technologie. Hein? parce que j'ai fait l'exercice, moi, d'essayer de voir quelle a été, ces dernières années, la position de Mathieu sur la question de la laïcité. Trouver ses traces, hein, pour essayer de voir comment évolue sa réflexion sur ce sujet. Alors donc, vous voyez déjà que l'intellectuel d'un certain type, de Zola à Sartre en passant par Camus, que cet intellectuel s'est estompé, cette figure de l'intellectuel s'est estompée au profit de ces intellectuels français, nouveaux philosophes qu'on voyait deux fois par semaine quasi à apostrophe chez Pivot. Alors qu'un individu comme Régis Debray a très très longtemps refusé d'aller à apostrophe de Bernard Pivot, hein, voyant bien qu'il y avait là un intellectuel overexposed, comme on dit en grec, hein, survisible, avec une survisibilité, et où la parole risquait de perdre sa pertinence tant elle était omniprésente, constante, un peu comme les signataires de multiples pétitions qui peuvent risquer de banaliser leur signature dans une incontinence de signatures. Alors, donc, ça annonce que l'intellectuel, aujourd'hui, a pris une figure qui est à formater. Bon. Alors voilà en gros la figure de l'intellectuel avec laquelle nous travaillons et qui est décrite dans ce bouquin. Quels sont les moments forts de l'émergence de l'intellectuel au Québec? Ça implique, bien sûr, une infrastructure culturelle qui est, dans les sociétés occidentales, qui est le développement de l'éducation supérieure, de l'université, qui est le développement de la presse, qui est le développement des échanges avec l'extérieur, qui est la création de revues d'idées, qui est l'émergence, ou ce qui s'appelle l'autonomisation d'une littérature nationale. Hein. Il est assez difficile de concevoir l'émergence d'intellectuels tant et aussi longtemps que dans une société donnée, une littérature ne s'est pas nommée, consolidée, affirmée, autonomisée. Bon. Donc, il y a des conditions préalables à l'émergence de l'intellectuel. Il faut qu'il y ait des idées et il faut qu'il y ait des lieux où débattre de ces idées. Il faut aussi qu'il y ait, dirait-on, des affaires, comme l'affaire Dreyfus en a été une. Hein? Ce n'est pas une condition sine qua non nécessaire, mais les affaires sont révélatrices d'intellectuels, elles sont assez souvent le fait d'intellectuels. Et pour qu'il y ait des affaires, il faut qu'il y ait des secousses, il faut qu'il y ait des crises, il faut qu'il y ait des transformations. Et donc, en un certain sens, l'intellectuel peut être lié à la modernité. Mais j'insiste pas trop là-dessus, parce que là aussi, c'est un terme qui nous obligerait à passer une heure pour se donner l'impression que nous nous comprenons. Donc, les moments forts, et c'est évidemment parce que j'ai pas tassé l'histoire culturelle et intellectuelle du Québec pendant 40 ans que je suis maintenant capable, avec un grand plaisir, d'identifier ces moments. Je dis un grand plaisir, je vous fais une confidence, parce que, étant sorti de la faculté de philosophie, ayant connu la navigation aérienne de haut niveau, l'histoire m'a appris le pilotage de brousse et ce que je voulais faire après mes études de philo en histoire des idées du Québec, c'était éventuellement de finir par comprendre ce qu'avait été l'expérience intellectuelle du Québec et c'était de finir par pouvoir fournir un type d'ouvrage que je trouvais dans n'importe quelle autre société, une histoire des idées en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les sociétés normales s'étaient donné une représentation d'elles-mêmes et de leur développement intellectuel. Et quelqu'un, un Belge qui voulait lire sur l'histoire intellectuelle de la Wallonie, il y avait des choses. Bon. Alors, c'est pour ça qu'il y a un plaisir maintenant immense à en parler. Je vois ça de façon panoramique et c'est surtout que ça permet d'épingler, ou en tout cas de prétendre épingler, les moments forts de ce développement. Le premier, il y a parmi les premières figures je parlerai pas du 19e siècle, on aura peut-être l'occasion d'en parler après-midi autour de Buy et qui d'autre?
Barry,
oui. Oui, en tout cas, 19e siècle, on pourra en parler. Mais avant 1930, à vrai dire, les figures un tant soit peu connues d'intellectuels, c'est beaucoup, qu'on le veuille ou pas, c'est beaucoup l'abbé Groulx. C'est lui et Henri Bourassa qui sont les maîtres spirituels, les maîtres intellectuels des nationalistes, finalement. Il y en a d'autres figures moins connues, dont les interventions ont été moins manifestes. Edmond Nevers, bien sûr, a pu publier en 1996 L'avenir du peuple canadien-français. C'était un tirage assez limité, mais c'est quelqu'un auquel des gens comme Gérin, des gens comme Grou vont commencer à faire référence. Il était référenciable, alors que Dessaulles, Buis et d'autres n'étaient pas référenciables à cette époque de triomphalisme religieux. À vrai dire, c'est la crise des années 30 qui bouscule tout le monde, qui est le point de décollage, hein? Le take-off, le mot anglais dit bien avec une image ce qu'est le décollage, parce que les années de crise, et ça c'est développé dans le bouquin que j'ai publié qui s'appelle « La modernité au Québec », le premier tome qui porte sur les années 30, où essentiellement je montre que la crise n'est pas qu'une crise financière, économique, sociale, mais c'est aussi une crise politique, la montée des fascismes qui écrasent les démocraties parlementaires, et une crise aussi intellectuelle et spirituelle. C'est-à-dire que les valeurs orthodoxes, traditionnelles, sont mises à mal par cette crise qui va durer une décennie. Hein? Et donc là, il y a un désordre généralisé dans la société qui s'installe, et chacun est confronté à l'obligation de trouver pour lui-même et pour ses concitoyens, si je peux dire, de trouver un nouvel ordre à cette société, un ordre économique, un ordre politique, etc., etc. Et c'est dans ce désordre généralisé que des figures d'intellectuels apparaissent, et particulièrement dans des revues qui, en pleine crise économique, sont néanmoins lancées, publiées, certes à des tirages parfois confidentiels, mais la crise économique qui crée tant de chômeurs n'empêche pas que des milieux bourgeois, des jeunes des milieux bourgeois, créent des revues et puissent les entretenir, comme la relève de 1934 jusqu'à 1948. Hein. Alors donc, les années de crise sont des années de prolifération de revues, la revue... Ben, la relève en 34, la revue Vivre à Québec. Hein? Québec connaît, au milieu des années 30, une effervescence intellectuelle remarquable, d'autant plus intéressante pour nous qu'elle a donné lieu, cette effervescence, à un roman qui s'appelle « Les demi-civilisés » de Jean-Charles Harvey, auquel quelqu'un s'intéresse ici. Et on peut lire les demi-civilisés comme étant la description du contexte dans la ville de Québec de l'émergence de l'intellectuel, c'est-à-dire d'un des protagonistes qui est le fondateur d'une revue, est-ce que ça s'appelle le 20e siècle, c'est ça? Et donc, on voit bien là, par la richesse des revues dans les années 30, la richesse des demi-civilisés, qu'on est en présence d'un phénomène nouveau. Il y a deux autres indices de ce décollage dans les années 30, c'est la publication de deux études, qui porte le mot intellectuel par deux figures. La première, c'est le père Georges-Henri Lévesque, qui est à l'époque, qui n'est pas encore le relanceur de la Faculté des sciences sociales de Laval, là. Il le sera en 1938, mais en 1935, lui qui vient d'avoir une sévère polémique avec l'abbé Groux, une polémique qui, en 1935, est encore reste privée, qui ne sera rendue publique qu'en 1941, hein. C'est ce jeune Turc, un clerc, un dominicain, mais un dominicain, hein, c'est-à-dire de la communauté religieuse la plus libérale du Québec. Hein. C'est donc le père Lévesque qui publie une brochure qui s'intitule « La mission des intellectuels canadiens-français, qu'ils soient un ». Bon, si le titre vous empêche de dormir, on pourra en reparler après-midi, si vous voulez. Mais Lévesque est donc le premier à publier une brochure et à essayer de formuler ce qu'est la mission, hein, vous voyez le lexique, là. C'est pas le combat, c'est pas la révolution de l'intellectuel, c'est la mission de l'intellectuel. Mais, néanmoins, le terme est là, le personnage est là, et on fait appel à lui. Le deuxième à publier, c'est un individu qui mériterait un mémoire de maîtrise, au moins, qui s'appelle René Garneau, que vous connaissez peut-être. Grand monde qui me regarde. Garneau, je dirais qu'il a eu la mésaventure de ne pas être un nationaliste au moment où le milieu nationaliste était assez prégnant. Hein. Mais Garneau, qui est allé dans la diplomatie culturelle canadienne, publie un texte tout à fait intéressant dans une revue des années 30 qui s'appelle Les Idées. Hein. C'est Pelletier qui... Quel est son prénom à ce
moment-là? Albert Pelletier.
Albert Pelletier, qui publie cette revue, Les Idées... Qui va disparaître malheureusement un peu trop tôt. Et Garneau publie un article dans Les Idées en 1939 qui s'intitule « Position » au pluriel, « Position de l'intellectuel dans la nation ». Tous les mots sont importants. « Position » qui annonce bien un positionnement, une forme d'intervention, l'intellectuel et la nation. Garneau s'inspire beaucoup d'un ouvrage qui est paru une douzaine d'années auparavant en France, qui s'intitulait « La trahison des clercs », qui avait été écrit par Julien Benda, B-E-N-D-A, et où Benda posait la question de l'autonomie de l'intellectuel, de la liberté de l'intellectuel face à des engagements idéologiques et partisans. Que devenait l'intellectuel en France au moment où l'intellectuel s'engageait dans l'action française, mettait sa plume au service de l'action française ou mettait sa plume au service d'un journal socialiste ou du parti socialiste. En d'autres termes, que devient l'intellectuel lorsque l'engagement peut devenir une forme de trahison de ses pairs par une adhésion trop, disons, monomane ou monolithique à une idée ou à une cause. Et c'est avec cette sensibilité-là que Garneau entreprend sa carrière d'essayiste, de journaliste, en posant la question des positions de l'intellectuel dans la nation. C'est une question centrale dans les années 30. C'est au même moment que naît un mouvement qui s'appelle les Jeunes Canada, dans lequel mouvement on va retrouver la grande figure de l'intellectuel québécois, qui est André Laurendeau. Hein? Laurendeau fait ses premiers pas comme intellectuel dans les années 30. Pierre Dansereau, le futur biologiste, écologiste, fait aussi ses premiers pas là. Robert Charbonneau fait aussi des pas là, dans les Jeunes Canada et dans la relève aussi. Bref, voilà deux moments, c'est ça mon propos, deux moments forts des années 30 où, dans une pléthore de revues, deux individus nomment expressément l'intellectuel et font appel à lui et à ses engagements et aux limites possibles de ses engagements. Je vous souhaite de suivre un cours sur Foucault, parce que s'il y a un épistémé qui est intéressant dans les années 30, c'est celui c'est la transformation d'un épistémé. L'épistémé, c'est l'esprit de parti. Une des raisons qui alourdissent les pieds du scaphandrier qu'est l'intellectuel dans le premier tiers du 20e siècle, c'est le fait que la politique accapare beaucoup l'énergie des milieux lettrés, des milieux journalistiques. Edmond Nevers avait fait de la dénonciation de l'esprit de parti, hein, le cœur un des cœurs, si je peux dire, de son bouquin, L'avenir du peuple canadien-français. Il dénonce cet esprit de parti, cet esprit rouge, cet esprit bleu qui s'était mis en place au moment de la Confédération dans un système politique québécois bipartisan, les rouges et les bleus, les conservateurs et les rouges. L'esprit de parti accaparait l'essentiel des énergies de la nation, comme on disait à l'époque. Si ce qui se passe dans les années 30 et qui nous indique bien que la crise est aussi une crise spirituelle, c'est que l'on commence à formuler l'idée de passer de l'esprit de parti au parti de l'esprit. Renversement copernicien, si c'en est un, l'idée étant que sortons d'une réduction de l'intelligence à la politique, hein, et développons cette idée d'un parti, mais de l'esprit. Alors, quand vous voyez, ne soyez plus surprise maintenant lorsque vous penserez à la revue Esprit que Mounier fonde en octobre 1932 à Paris. C'est cette même sensibilité qui prévaut au Québec dans les années 30. Ça donne lieu à la fondation de revues qui s'appelle Les Idées, entre autres. Bon, mais c'est un moment épistémologiquement fort parce qu'il y a cette rotation qui s'opère de l'esprit de parti au parti de l'esprit. Ça ne se fait pas automatiquement, mais l'idée est lancée. Dans l'après-guerre, le deuxième moment fort, c'est l'après-guerre. De la même façon que la crise des années 30, la guerre de 39-45 traverse de part en part les sociétés qui la connaissent. Chacune de ces sociétés étant marquée irrémédiablement. On vit encore avec la représentation de l'Allemagne nazie, on vit encore avec la représentation d'une France qui a été à l'époque divisée entre De Gaulle et Pétain, d'une France où les résistants, les communistes ont été importants. On n'a pas d'étude équivalente au Québec, ou une étude un tant soit peu satisfaisante de ce que la guerre aurait induit comme transformation. Une étude, je dis bien un tant soit peu satisfaisante, je ne dis pas définitive, mais on a des bribes, ça et là, mais ça reste à faire. Donc, non seulement après la guerre, mais durant la guerre. C'est ça qui est assez fascinant. On pense que pendant la crise, il n'y aura pas de revues qui vont se publier, les gens n'ont pas d'argent. C'est pas ça qui s'est passé. On pense que pendant la guerre, il n'y a rien qui se passe. Des machistes disant « les hommes sont tous partis hein, ». Bon. Alors que pendant la guerre, il y a une effervescence intellectuelle et artistique dont le mouvement automatiste est le meilleur exemple. Le refus global de 48 est le point d'orgue et le point d'aboutissement d'un travail qui s'est fait chez les peintres pendant la guerre, depuis l'exposition des gouaches de Bordua en 42. Bref, pendant la guerre, dans les revues des peintres, et en particulier Jacques de Tonnancour, qui est peut-être beaucoup moins connu, mais qui aura une œuvre de peintre ensuite et d'entomologiste, hein, c'est assez extraordinaire comme carrière, Jacques de Tonnancour, avec Maurice Gagnon, le père de François-Marc Gagnon, qui est le grand pionnier des études sur l'automatisme et sur Bordua, Maurice Gagnon et Jacques de Tonnancour sont ceux qui, dans les revues, essaient de formuler une pédagogie de la peinture abstraite, essaient de faire comprendre ce qu'est l'abstraction, ce qu'est le passage du figuratif au non-figuratif. Tout ça pendant la guerre. Si bien que lorsque le refus global paraît en 48, on trouve là des figures d'intellectuels, certaines plus évidentes que d'autres, comme c'est le cas de Bordua. On est chanceux, il a laissé beaucoup d'écrits, Bordua. Il a beaucoup parlé, écrit, ce qui n'est pas le cas de Pellan. Hein? Pauvre Alfred, qui a une œuvre monumentale, certainement équivalente à celle de Bordua. Pellan travaillait, parlait pas, écrivait peu, donc on n'est pas en mesure de voir jusqu'où ce Pellan a été un intellectuel. C'est sûr qu'on peut toujours faire une thèse de doctorat sur Pellan comme intellectuel en prenant ses toiles et toute son œuvre peinte, si je peux dire, comme un discours. Hein? L'exercice est certainement à faire, c'est certainement pas moi qui va le décourager, au contraire. Mais alors que pour Bordua, on a des écrits. Et là, on peut voir, hein, par le refus de la balle même, mais plus, plus largement par d'autres écrits, comment c'est un intellectuel. À nouveau, entre Cité libre en 1950 et Liberté en 1959, deux titres qui réfèrent au même lexique de la liberté, une cité libre et liberté, hein, ces deux revues à une décennie de distance disent clairement, il me semble, comment un milieu intellectuel, un milieu d'intellectuels éclos durant cette décennie parce que ces intellectuels se donnent, entre autres, des lieux d'expression que sont les revues. C'est aussi le moment où l'université connaît un décollage. Hein? L'Université Laval célèbre son centenaire en 52. Chafalardeau publie « Essai sur le Québec contemporain », qui a été un colloque tenu à Laval de réflexion sur l'état de la société canadienne-française en 52. À l'Université de Montréal, l'université est enfin montée sur la montagne, hein? Elle a enfin trouvé des fonds pour se développer et l'université produit des universitaires qui sortent du domaine de leur expertise propre et qui interviennent sur un certain nombre de débats. Ils vont le faire, par exemple, de façon manifeste en 1960 autour de la question de la laïcité. Hein? Les universitaires de Laval et de Montréal publie un livre « Non à l'université des Jésuites », mais là, on voit bien comment les universitaires sortent de leur domaine, s'affirment comme professeurs laïcs et non pas religieux, hein, et se mobilisent en faveur d'une université laïque et non pas celle que des Jésuites veulent fonder sur les murs du Collège Sainte-Marie et du Collège Brébeuf. Donc, des intellectuels, des revues, une situation nouvelle qui est, à cause de la guerre, la modernisation industrielle du Québec, hein, et une modernisation qui va trouver dans un discours réflexif sur la modernité son expression adéquate. Les intellectuels, je dépasse, j'en suis conscient, mais ça.
Non, ben là, comment j'achève. Je suis encore, hein? Donc,
Ah oui, ah, je te bénis. voyez les réflexes. Les intellectuels se donnent, ont l'université. Commence à entrer lentement dans les collèges classiques, se donne d'autres lieux de débat, comme l'ICAP, l'Institut canadien des affaires publiques, qui a une rencontre annuelle à Val-David, dans les Laurentides, et quand on prend les thèmes des rencontres annuelles de l'ICAP, c'est un véritable index des problèmes cruciaux qu'ont connu le Québec durant ces années-là. Une année, c'était, disons, l'Église, une autre année, c'était la liberté, une autre année, c'était l'État, le syndicalisme, bref, les intellectuels universitaires qui se retrouvent à Val-David chaque année et auxquels Radio-Canada donne voix chaque année, ces intellectuels alimentent en quelque sorte le vivier de ces de ces intellectuels qui se multiplient. Et en bonne partie, l'université, dans les facultés de sciences sociales, alimente un autre bassin d'intellectuels. À Laval, c'est vrai, ceux qui, avec des syndicalistes, vont faire la grève de l'amiante, c'est des gens qui sortent de l'École des sciences sociales, de la faculté du Père-Lévesque. Ceux qui vont faire la réforme de l'État québécois, un peu sous Duplessis, c'est le cas d'Arthur Tremblay, ces figures-là sortent des facultés de sciences sociales. Et beaucoup des rédacteurs des revues comme de Cité Libre sont des gens qui, comme Fernand Dumont ou Falardeau ou Léon Dion, sortent de la faculté des sciences sociales et alimentent les revues des années 50 et bientôt des années 60. Alors, si vous prenez, par exemple, on peut faire une adéquation entre la dynamique de développement des intellectuels et la collection constante chez Urtubiz HMH qui commence à paraître en 1960. C'est, la collection constante est la collection des essais chez Urtubiz. Mais ce qui est intéressant de noter, vous prendrez les cinq premiers titres, mettons, qui paraissent. L'essai, par définition, est la plupart du temps un recueil. C'est pas vous qui allez l'apprendre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Le Moine, Vadeboncœur, Maurice Blain, les essais qui paraissent sont des recueils de textes publiés depuis 1945, dans la décennie 50, un bon nombre d'ailleurs publiés dans Cité Libre ou Amérique française ou la Nouvelle Revue canadienne et d'autres revues. Si vous avez besoin d'un signe que le 22 juin 1960, là, tout ne se passe pas là. C'est pas l'alpha et l'oméga des transformations du Québec, l'élection de Jean Lesage et la défaite de l'Union nationale. Vous avez là dans la collection constante un bon indice de ce qu'avait été l'effervescence intellectuelle des années d'après-guerre, mais éparpillé dans les revues d'intellectuels, justement, par les intellectuels, rapaillé dans la collection de constante chez Urtubiz HMH. Pour moi, il y a j'ai forcé la note à un colloque sur parti pris en disant que les intellectuels de parti pris étaient le réel aboutissement de l'intellectuel au Québec en 63. Hein? J'ai forcé la note à peine parce que les partipristes, comme on les appelle parfois, sont des gens qui se perçoivent comme intellectuels, qui se présentent comme intellectuels, qui n'ont pas peur de se nommer intellectuels, un, deux intellectuels de gauche ou intellectuels marxistes. Il y a un accomplissement intellectuel chez eux où on n'a pas à qualifier le fait que l'on se nomme intellectuel. D'entrée de jeu, on l'est, la chose est octroyée, c'est une situation de fait, alors qu'avant 1963, il y avait toujours un petit justificatif, des petits préliminaires, on le voit dans... cité, non, Liberté, dans un de ses premiers numéros, mène une enquête sur l'intellectuel au Québec, en 59. Une enquête limitée, relativement intéressante, mais le nouveau journal contacte 125 personnes en 1962 pour leur, non pas leur demander s'ils se perçoivent et s'affirment comme intellectuels, mais pour leur demander quelles sont leurs lectures. Hein? Je n'entre pas dans le détail de ça, à moins que vous ne m'y obligiez sans violence, mais je veux simplement vous faire voir qu'il y a quand même un court passage entre cette enquête que mènent Jean Paré et Gilles Hainaut et André Langevin en 62, et l'année suivante, des jeunes Turcs hein, qui ruent dans les brancards, fracassent tout et s'affirment d'entrée de jeu intellectuels. Et ce qui n'est pas sans me plaire, dois-je dire, ce sont des gens qui se veulent indépendantistes, laïcs et socialistes. J'insiste ici sur le volet laïque de leur programme. Hein? À nouveau, pour vous faire voir, si pour vous, la dimension de la liberté absolue de penser est un prérequis pour identifier et reconnaître des intellectuels, eux franchissent le pas de dire « nous sommes des intellectuels, nous sommes des intellectuels laïcs, sans limite religieuse, et nous préconisons une société laïque. » Bon, je m'arrête là. Il y a une idée que je veux simplement innocemment lancer, c'est la relation, et là, ça alimente la pertinence de l'article de René Gardeau en 1939, « Position de l'intellectuel dans la nation », c'est la relation qu'il y a entre la montée de l'intellectuel et la critique du nationalisme traditionnel. La montée de Cité libre est directement proportionnelle à l'affaissement de l'Action nationale, qui n'est pas disparue, on le sait bien, là. Mais il y a une crise du nationalisme au milieu des années 50, qui, pour moi, a à voir avec la position de l'intellectuel. Je dis pas que les deux positions sont irréconciliables, mais chose certaine, dans un Québec nationaliste où la politique et où le nationalisme annexait l'intellectuel, Grou a des phrases clair là-dessus, la tâche de l'intellectuel, c'est de convaincre de nationalisme de ses concitoyens. Bon, alors, il y a assez de matière là, j'imagine, pour que vous soyez en désaccord avec moi, ce que j'espère de tout cœur. En tout cas, l'essentiel de cela se trouve là-dedans, c'est sans prix. Alors, si vous avez des questions, des accords, oui?
Vous venez de dire que la tâche de l'intellectuel chez Grou était un peu différente. Pensez-vous qu'elle se module au fil du temps, cette tâche?
Chez Grou?
En général, mais tout au long du 20e siècle.
Oui, elle se module. Dans des directions qui peuvent paraître même ambivalentes, sinon contradictoires. C'est-à-dire que, d'une part, il y a des intellectuels catholiques qui et Grou en est la première et la figure la plus riche, en un sens, des intellectuels catholiques qui commencent à vouloir revendiquer pour eux-mêmes la figure de l'intellectuel qu'ils dénonçaient dans un premier temps. Hein, les premières interventions de Grou à propos de l'intellectuel, de l'intellectualisme, de la raison, il ne veut pas être identifié à ça, lui, d'aucune façon. Mais sauf qu'au fur et à mesure où ces intellectuels gagnent en visibilité, en crédibilité, les intellectuels catholiques se disent « Mais pourquoi ne pourrions pas nous-mêmes porter cette figure ?» Et donc, on va voir des gens comme le père Lévesque, et on va voir progressivement des laïcs, hein, des gens qui ne sont pas des prêtres, là, des laïcs se battre pour un statut d'intellectuel catholique. Le bon exemple, c'est la création en 1950 à l'Université de Montréal du Centre catholique des intellectuels canadiens, qui est une imitation de ce qui existe en France, mais on veut quand même, et il y a parmi ces gens un philosophe québécois, malheureusement peu connu, qui s'appelle Jacques Lavigne, qui a publié un ouvrage important en 1953 à Paris chez Aubier sur l'inquiétude humaine. Lavigne est de ces intellectuels catholiques. Comme Jean Lemoyne, lui ne se voudra pas intellectuel, nous le reconnaissons comme intellectuel, mais les figures d'intellectuels catholiques crédibles se multiplient dans la revue maintenant, et il y a des figures, mais c'est que plus ça va, plus les intellectuels catholiques sont des intellectuels catholiques discrets sur leur catholicisme. Pierre Vadeboncœur régimerait peut-être s'il était là de se faire appeler intellectuel catholique, mais ça demeure, à ma connaissance, un intellectuel chrétien croyant, sauf que pour moi, il sublime dans le sacré et dans l'art ce qu'est la transcendance chez des croyants. Alors, ça, c'est la, si vous voulez, la voie de l'évolution de la figure de l'intellectuel catholique. Mais par contre, je dirais pas à contrario, mais on voit l'intellectuel véritable pour moi, hein, celui qui se bat pour la liberté. C'est pas pour rien que j'insistais tantôt sur le titre des deux revues, Cité libre et Liberté. Hein? C'est la liberté, c'est un thème de l'Institut canadien des affaires publiques, c'est un thème qu'abordent les grandes figures d'essayistes et d'intellectuels durant cette décennie-là. Alors, c'est les intellectuels, l'intellectuel le devient pour moi dans sa totalité, dans sa plénitude, précisément parce qu'il se décape des contraintes qui ont été les siennes et auxquelles il s'oppose, contre lesquelles il se bat. Hein? L'intellectuel qui se bat pour la liberté d'expression, pour la liberté d'esprit, il se décape du silence, de la chape de plomb qu'avait pu mettre sur ses épaules ce silence. Hein. Pelletier dira de l'expérience de Cité libre qu'ils avaient réussi à rompre le silence. Hein. Alors donc il y a une voix de gens qui se délestent des empêchements qui avaient été ceux de l'intellectuel, et ces empêchements, pas absolus, on se comprend bien, buis se débat comme un diable dans l'eau bénite, mais il se débat, hein? Même si c'est de l'eau bénite. Alors donc, vous voyez, il y a à la fois un mouvement de volonté de d'émancipation des catholiques, des intellectuels catholiques, mais un autre type d'émancipation plus complet, plus radical chez les autres intellectuels.
Et Alex?
Comment se positionnent les femmes par rapport à ce mouvement-là d'émancipation intellectuelle avant, je dirais, les années avant la Révolution tranquille?
Merci Alex, parce que j'allais commettre un lapsus de mémoire et de débat. L'originalité de notre approche, ça n'existe pas encore nulle part, c'est d'avoir essayé de mettre en place les femmes comme intellectuelles en même temps que les hommes. Il n'y a pas de modèle de ça en France. Il n'y a pas une histoire des intellectuels là sur une longue période de temps, disons. Donc, il fallait conceptualiser ça. Il fallait éviter le double écueil de la défense du féminisme et du militantisme féministe. C'est parce que ça se veut un travail scientifique. Donc, la tâche n'était pas facile parce que c'est devenu clair pour nous assez rapidement que les intellectuels, c'est-à-dire celles qui ont tenu un discours critique qui apportait des éléments nouveaux au débat intellectuel, social, civique, et qui était médiatisé, hein, on a pris la même définition, évidemment. Il fallait donc voir comment ça pouvait s'articuler sans qu'on refasse une histoire du féminisme ou de la condition féminine, et sans que l'on veuille par l'affirmation des intellectuels là, mener un combat d'un certain type. Ce contre quoi je n'ai rien, évidemment, j'ai tout pour, mais c'est pas le lieu. Bon. Alors donc, la diagonale était pas facile à trouver. La navigation ne pouvait pas se faire aux instruments, là. C'était en direct. On a donc retenu les femmes qui avaient tenu un discours critique, qui avaient tenu ce discours critique dans la presse, ou dans des revues, ou dans des médias, parce que comme nous venions jusqu'au présent, nous voyions bien que la figure, sans faire de récurrence dangereuse au plan méthodologique, nous voyions bien qu'il y avait une filiation entre celle qui tenait un discours critique, qui était féministe, qui écrivait dans des journaux à grand tirage, qui fondait des revues ou des journaux féminins féministes, qui tenait des chroniques comme Fadette, hein, dans Le Devoir, et qui éventuellement collaborait à Cité Libre, le cas de Jeanne Lapointe, le cas d'Adèle Lauzon, ou bien, et ça c'est une des... Le moment où les femmes arrivent comme intellectuelles sur la scène publique, c'est le moment des médias électriques et électroniques. C'est-à-dire que c'est beaucoup, c'est plus avec la télévision qu'avec la radio, mais beaucoup de figures d'intellectuels vont venir à la fois avec le syndicalisme et à la fois avec la télévision. Judith Jasmin, Lise Payette, dans le syndicalisme, Madeleine Parent, Simone Monnet Chartrand,
Léa Robac.
Léa Robac. Alors donc, c'est le même pattern de lecture, sauf que nous avons porté attention au discours critique des femmes. Un discours critique qui a commencé à déborder le strict féminisme. Hein? Quelqu'un comme Adèle Lauzon prenait ses distances par rapport au féminisme naissant. Même chose pour Judith Jasmin. Sauf qu'elle voulait incarner dans leur démarche ce qu'elle concevait être la place critique nouvelle des femmes dans les médias. Alors, c'est ça pourquoi, entre autres, elles se sont beaucoup intéressées aux questions internationales. Adèle Lauzon a été reporter en Algérie, à Cuba, pour le Maclean. Elle a fait des articles dans Cité Libre là-dessus. Même chose pour Judith Jasmin, qui a beaucoup couvert pour Radio-Canada la scène internationale et surtout européenne et surtout française. Une autre figure que nous avons inclue, c'est Lise Payette. Alors, je ne dis pas que nous l'avons inclue pour faire débat, mais c'est une figure multiple qui a été dans le milieu syndical en Abitibi, Témiscamingue, qui a été momentanément proche du CCFNPD au début, qui est allé à la radio, mais qui très rapidement s'est fait une place à la télévision, entre autres comme féministe de son genre, de son type unique, et qui, comme vous le savez, est devenue femme politique, qui est devenue Lisette. Hein? Alors donc, elle peut servir à illustrer la polysémie de la figure de l'intellectuel, qui peut l'être à un moment, mais qui ne l'est plus à d'autres moments où la personne est liée par un engagement politique. Gérald Godin, pour prendre un exemple pas du tout fictif, Lise Payette sont deux exemples d'intellectuels engagés en politique, mais qui ne pouvaient pas, au moment où ils étaient députés et surtout ministres, qui ne pouvaient pas dire ce qu'ils pouvaient dire. Et c'est même pas évident qu'ils vont pouvoir dire dans leur mémoire. On le voit bien chez Lise Payette, qui a laissé trois tomes de mémoire, tout dire de ce qui a été vécu. Alors, on n'en sort pas le féminisme et le lieu d'émergence de l'intellectuel, c'est clair. Le défi, c'était de voir dans quelles autres instances pouvait se tenir le discours critique de ces femmes. Hein? Il s'est tenu sur des questions politiques, sur des questions internationales, sur la liberté d'expression aussi. Alors donc, il y a un récit spécifique pour les intellectuels dans cette histoire. Ça aurait peut-être été souhaitable qu'il n'y eût qu'un seul récit, homme et femme, toujours simultané, mais les choses étaient peut-être pas suffisamment claires aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, ce serait possible de refaire une histoire de l'intellectuel au Québec, où là, la trame pourrait se suivre. Il y a simplement le fait que la temporalité de l'émergence des intellectuels et des intellectuels, la chronologie n'est pas la même. Hein? Il y a des femmes et des hommes au même moment, mais le gros des troupes d'intellectuels qui décollent dans les années 30, c'est pas vrai pour les femmes dans les années 30. Hein? Alors donc, il y a deux chapitres au moins où là, on fait l'histoire des intellectuels entre 1880 et 1929, et ensuite on fait la séquence simultanée, mais c'était difficile de faire le récit d'une même venue, si vous voulez, mais ce qui n'est pas de l'ordre du préjugé, je pense bien. Est-ce que ça répond un peu?
Oui, merci.
Ouais. Oui.
J'aimerais vous entendre, moi, pour mon travail, je me suis penchée sur les écrits de Marie-Victorin. Et mm-hmm. J'aimerais que vous entreteniez sur le rapport entre la montée de l'esprit scientifique et l'émergence des intellectuels.
Mm-hmm. En fait, il y a deux... On a retenu deux figures, Marie-Victorin et Pierre Dansereau. Est-ce qu'on aurait pu ou dû retenir Adrien Pouliot, Jacques Rousseau, l'ethnobiologiste,
Armand
Frappier? Nous les connaissions, mais nous n'avons pas pensé que l'importance ou la fréquence de leurs interventions justifiait que nous les retenions. Dans le cas de Marie-Victorin, c'est évident. Évidemment, c'est une belle figure, Marie-Victorin. On a retenu, c'est pas un scientifique, mais il y a le frère Marie-Victorin qu'on a retenu, il y a le frère un tel qu'on a retenu. On aurait peut-être pu retenir d'autres frères comme exemple, mais il fallait se limiter. Là où je vais en venir, c'est que dans la structure ecclésiastique, les frères, c'est le lumpenprolétariat du clergé. Hein? Les frères, c'était les serviteurs du clergé masculin, les tâcherons. Le frère Untel a beaucoup dénoncé cela et... il a fait la preuve qu'ils n'étaient pas des tâcherons. Mais donc, Marie-Victorin est intéressant. C'est un frère, mais c'est un frère qui, pour moi, a la prestance d'intellectuel du Père Lévesque. Il est à peu près contemporain du Père Lévesque. Il écrit dans les années 30. Il aide à la création de l'ACFAS avec, avec d'autres. Là où c'est un intellectuel évident pour moi, c'est que, un, c'est un scientifique, donc un promoteur de la raison, des distinctions à faire entre la raison et la foi. Hein. Il va dire, dans un article du Devoir, à un moment donné, quel clergé laisse donc nous laisse donc travailler dans nos laboratoires. Hein. Donc, promotion de la raison, autonomie de la raison, laïcisation, en un certain sens, de la pensée. Et de ce point de vue-là, Marie-Victorin est intéressant. Il est intéressant aussi à propos du nationalisme. Parce que, pour un vieux routier comme moi de l'histoire des idées, je pense pas que ce soit une fixation personnelle, hein, mais on peut pas traverser le 20e siècle québécois sans croiser le nationalisme et la religion. Alors, il faut composer avec cette réalité-là, essayer de comprendre les positions légitimes, qu'on se comprenne bien. Mais Marie-Victorin, il tient un discours critique sur la croyance, la foi, en faveur de la raison, et il tient un regard critique à l'égard du nationalisme. Lui, dont on s'est servi après, hein, pour comprendre ce qu'était la Laurencie, hein, lui qui avait étudié minutieusement la flore laurentienne, hein, lui, le Québec, il croyait. Hein, il a herborisé le moindre brin vert qu'il y avait au Québec, hein, pour faire comme dans d'autres sociétés, hein, connaître la botanique de la nation. Il l'a fait pour Cuba aussi, hein, c'est lui qui l'a fait. Ce gars-là, qui a écrit La flore laurentienne, qui a quasiment, Jacques Blais l'avait bien fait voir ça, qui a quasiment mis en vedette et en circulation l'idée de Laurentie, de Laurentienne, lui va être critique à l'égard d'un certain nationaliste aliéné à l'égard de la religion, mais tout autant aliéné à l'égard de la France. Il va être assez brusque, assez bougon, à l'égard de deux ou trois professeurs français du département de la Faculté des sciences de l'Université de Montréal, hein, parce que luttant pour la création d'une science botanique québécoise, d'une équipe de botanistes québécois, et visant la création de son fameux jardin botanique, qui va finir d'obtenir, hein, sans permission à l'égard de certaines attitudes d'universitaires français qui pensent descendre au Québec dans un territoire d'outre-mer. Ce qui n'est plus le cas, le rappelle-t-il, depuis 1760. Alors donc, là-dessus, voilà comment Marie-Victorin est doublement intéressant, doublement intellectuel, parce que critique à la fois d'une certaine religion et critique d'un certain nationalisme, sans un refus global, si vous voyez ce que je veux dire, hein, sans un refus global pour autant de chacune des dimensions. Alors, dans le recueil de textes d'Yves Gingras, vous connaissez sans doute déjà les textes de Marie-Victorin où il est question de ces débats. Qui est sceptique sur la figure de l'intellectuel que je vous ai proposé? Oui?
Un peu. Enfin, je m'interrogeais, quand vous l'avez présenté, vous dites, la frontière entre la figure de l'intellectuel qui, disons, appartiendrait à la figure du laïc, et l'intellectuel qui, par ailleurs, qui ne s'en cache pas, qui exprime sa foi. Cette frontière-là est difficile à partager. Je pense à des grandes figures intellectuelles qui ont toujours fait la part, et qui l'ont exprimé. D'ailleurs, je pense par exemple à la figure intellectuelle d'un Paul Ricoeur dans la revue Esprit. On a parlé de lui, qui a beaucoup écrit, qui prenait vraiment la parole dans l'espace public et qui disait par ailleurs, je lui ai toujours fait la part des choses, entre, disons, ma vie privée, mes valeurs, mes références spirituelles et mon travail philosophique, mon travail d'intellectuel. Même chose ici pour un Dumont, par exemple, qui se devait cacher de ses accointances, de ses préférences spirituelles, mais en même temps, toujours faire la part des choses, un travail très rigoureux, ou de sociologue, ou de, disons, d'historien. Alors, je trouve votre position extrêmement intéressante, mais en l'entendant, il m'est venu cette réflexion et ces figures qui par ailleurs, ont joué des rôles extrêmement importants et qui n'ont jamais perdu l'occasion ou manqué l'occasion de s'exprimer dans l'espace public sur des questions névralgiques et qui, en même temps, quand on leur posait la question, disaient toujours « je fais la part des choses entre ceci et cela ». Ça m'empêche pas d'être un intellectuel. Bon, il y a ça, il y a l'autre part, tous ceux qui ne sont pas, qui s'affichent anticlérical ou anticatholique ou anticrétien, mais qui épousent une autre religion d'une certaine façon, mais qui sont des intellectuels qui se disent libres, mais qui en même temps sont un peu, je dirais, qui sont aussi aveugles à l'égard de leur appartenance intellectuelle, théorique, politique, qui sont, c'est le cas par exemple de certains marxistes dans les années, me semble-t-il, en tout cas dans les années 60-70, et qui, très engagés, des intellectuels dans l'espace public, et qui avaient une lecture presque un peu mécanique, presque essentiellement mécanique des agitations de la société. Donc, en fait, j'ai pas d'objection, mais je m'interrogeais sur, on retient qui, la frontière finalement qui départage l'intellectuel de celui qui ne l'est pas, ou de celle qui ne l'est pas. Alors, c'est un peu flou dans mon esprit, mais cela dit, conférence extrêmement intéressante pour moi, mais non.
Quand j'avais publié, il y a une couple d'années, un article sur les intellectuels francophones au Québec, et où je maintenais qu'il n'y avait pas d'intellectuels francophones au Québec au 19e siècle. Hein. Je me suis rendu compte après coup que j'avais péché véniellement. si ce langage vous dit quelque chose. Je veux dire par là que quand j'avais essayé de donner une définition pour le Québec de l'intellectuel. Et j'avais voulu, à ce moment-là, être le plus rigoureux possible et de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui dans le club, si je peux dire. Il y avait un certain nombre de conditions et cette figure de ce que l'on appelle la fonction, l'intellectuel fonction, comme ce qui va devenir apparent, évident, après l'affaire Dreyfus, cette figure-là n'existe pas au 19e siècle. Jacques Le Goff a parlé d'intellectuels au Moyen Âge, Serge Lusignan aussi à l'Université de Montréal, d'autres ont parlé d'intellectuels au 18e siècle français. Donc, je voulais une définition la plus rigoriste, la plus rigoureuse possible, mais c'est devenu rigoriste. Hein? Mais c'est que je tenais ferme pour ne pas céder à l'intrusion de trop de monde dans la définition. Bon, nous évoluâmes. Je veux dire par là que on peut comprendre qu'il y a ce que j'appellerais des intellectuels au singulier au 19e siècle, alors qu'au 20e siècle, c'est l'intellectuel au pluriel d'ores et déjà qui existe. Hein. Ils sont déjà en groupe, ils se regroupent assez tôt, assez rapidement, autour d'affaires, autour de revues. Cette dynamique-là n'existe pas en un temps où les affaires sont moins nombreuses à cause de domination politique, monarchiste ou religieuse, et où la presse aussi, avant la presse de Girardin, avant l'époque de Balzac, est plus ou moins accessible. Bon. C'est la même chose pour la question de l'intellectuel laïque et de l'intellectuel catholique. Il me semble que, historiquement, la première figure intellectuelle qu'on connaisse, qui est beaucoup la figure française, hein, et ça ne tient pas seulement à notre héritage français, nous avons aussi un héritage britannique et états-unien, et donc je connais l'histoire des intellectuels, ou ce qu'il y en est en Angleterre, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux d'études comparées des intellectuels qui ont été très éclairantes. Alors, mais la figure que nous avons de l'intellectuel, c'est beaucoup celle du temps de l'affaire Dreyfus et donc de figure républicaine et laïque d'intellectuels. Hein. Mais c'est pas pour rien que des gens comme Maurras, Barrès, hein, ont été des anti-Dreyfusards. Mais des anti-Dreyfusards qui ont commencé à vouloir être eux-mêmes des intellectuels. Hein? C'est pour ça que, voyant une certaine priorité temporelle, chronologique, historique, dans la figure de l'intellectuel laïque, républicain, j'ai tendance à lui donner le crédit d'avoir donné le branle à la figure, mais en même temps de bien voir que des milieux catholiques ont voulu dans un premier temps dénoncer ça, mais dans un deuxième s'approprier la figure. Et je suis d'accord avec vous. Alors, parfois c'est en marquant un peu fortement un aspect de la définition qu'on peut donner l'impression par d'une rigueur devenue rigoriste, mais j'aurais été le premier piégé à devoir m'expliquer à moi-même comment Charles Taylor, qu'on inclut dans le dictionnaire, Fernand Dumont aussi, évidemment, n'aurait pas été des intellectuels. Donc, il faut faire place, en particulier au Québec, à l'intellectuel catholique. Et les années 30 sont extrêmement révélatrices là-dessus, à cause de la figure de Jacques Maritain. Maritain, qui est une des premières grandes figures d'intellectuel catholique, crédible chez les intellectuels appelons-les laïcs ou républicains, comme Mounier, qui est un peu plus jeune, va devenir crédible aussi comme intellectuel catholique aux yeux des intellectuels des temps modernes. Après, il faut donc faire place à cet intellectuel catholique et voir quel est le coefficient de distance critique que tel catholique peut avoir sur l'institution qui est la sienne ou sur des questions qui sont formatées par son Église. Par exemple, dans l'histoire des intellectuels, l'encyclique Humanae Vitae de 68, où l'Église catholique réaffirmait l'empêchement de recourir aux ananovulants, à la pilule anticonceptionnelle, cette encyclique, ça a été la fin de la pratique religieuse catholique orthodoxe pour beaucoup, beaucoup de femmes au Québec. Des femmes qui se battaient, dont Hélène Pelletier-Baillargeon, avec son mari qui était médecin, hein, Baillargeon.
Oui.
Oui, Baillargeon, oui. Jacques Baillargeon. Elle s'est battue dans Maintenant, hein, pour défaire, avec Charles de Coninck, d'ailleurs. On est chez lui aujourd'hui. se sont battus pour que les femmes catholiques puissent avoir la liberté de leur corps et de leur pensée. Et quand l'encyclique est venue annuler leur travail de revendication, elles ont... Certaines ont quitté l'Église catholique, ça ne les a pas empêchées d'être croyantes, mais elles ont décidé pour elles-mêmes de ce qu'elles voulaient faire. Mais il reste une question résiduelle sur laquelle il est difficile de s'entendre parce qu'elle est impossible à résoudre. Et ça, j'en ai déjà débattu avec mon collègue Charles Taylor. Parce qu'il a pris position à la fois à l'occasion de la commission Bouchard Taylor et à la fois au moment du débat sur la charte de la laïcité, malheureusement devenue charte des valeurs. Comment un croyant peut-il convaincre un non-croyant rationaliste qu'il est capable de faire la part des choses? Comment contrôle-t-il son inconscient au point de prétendre savoir que quand il prend position sur telle question, en toute bonne foi, en toute honnêteté, on se comprend bien, là, il ne s'agit pas d'être mesquin d'aucune façon, mais à partir du moment où, comme Auguste Comte le disait, on ne peut pas être en même temps le passant sur le trottoir puis celui qui le regarde passer de la fenêtre, c'est ce qui me fait dire, moi, que on ne peut pas prétendre dissocier ses croyances fondamentales, les valeurs associées à ces croyances fondamentales, les dissocier d'un positionnement rationnel, rationaliste. Mais ça n'empêche personne de dormir. C'est une aporie, un insoluble, mais je pense qu'il faut être alerte à cette dimension-là, mais là, on est rendu...
Est-ce que tu as dans... nous en répondre?
non, il est plutôt d'accord pour dire que... Il est plutôt d'accord pour dire qu'on... faire la part des choses demeure un processus interminable. Je pense que c'était ça sa réponse, mais interminable.
Mais ce n'est pas seulement en plus pour les catholiques, ce n'est pour, monsieur évoquait les marxistes d'une certaine époque. Au fond, on est tous un peu pris avec ce même problème. Il me semble en tout cas que... ce qu'on a retenu aussi, je pense, beaucoup dans cette histoire d'être intellectuel, c'est la distinction de maritain en tant que chrétien et en chrétien, qu'on peut étendre d'ailleurs à plusieurs sphères de la vie. C'est important de dire, en tant que chrétien, porte-parole d'une pensée, un certain prosélytisme à un certain égard, et en chrétien, c'est-à-dire avec ses valeurs qui vont, d'une manière ou de l'autre, informer notre position, notre intervention dans la société. Puis aussi, on en a parlé avec les étudiants, mais tout l'aspect dialogique aussi d'un intellectuel que je trouve très important. En parlant beaucoup d'André Belleau, cette idée aussi que, comme une question, prenons la question de l'indépendance du Québec, Belleau a en lui cette espèce de dialogisme, à la fois une pensée fédéraliste à plusieurs égards, et en même temps, cette capacité donc de tenir les deux pensées, de les accepter en tout cas. Je pense que le dialogisme aussi, c'est très important, et même pour un chrétien, c'est cette capacité justement de dialoguer à l'intérieur de soi-même. Je pense que c'est très important. Puis ça nous a permis de... Je ne dirais pas nettoyer les écuries, non, mais...
Mais c'est que, souvent, ça, dans le dernier tome de l'histoire des idées, de 39 à 65, la grande originalité, c'est d'avoir utilisé les essayistes comme source de documentaire, comme source de réflexion. Et si on peut faire... dans la mesure où les essayistes sont un peu comme les
scouts,
comment on traduit scouts, les éclaireurs, hein, les peintres de l'armée britannique qu'on envoyait en avant des troupes et qui étaient tous des dessinateurs hors pair, hein, et qui saisissaient le terrain où allait se retrouver éventuellement l'armée. Les essayistes, pour moi, c'est beaucoup ça. Des éclaireurs, non seulement des contestataires d'un certain nombre de réalités ou de valeurs, mais des aquarellistes qui esquissent les possibles. Hein. Alors, ils m'ont intéressé parce que ceux qui écrivent dans les années 40 et 50, ils esquissent des possibles... Et je vois c'est possible se réaliser au milieu des années 60. C'est pour ça que je ne me suis pas arrêté dogmatiquement à 22 juin 1960. Donc oui, l'essayiste est un intellectuel naturel, mais pas automatique là, mais parce que il est dialogique.
C'est ça.
Hein? Il est dans une pensée réfléchissante, contestatrice, cherchant des formules de sortie, de renversement des obstacles. À propos de... Je vais terminer là-dessus. À propos de la formule de Maritain en tant que chrétien, en chrétien, il a fallu qu'on fasse tant de travail, tant de recherches pour que quelqu'un, un jour, fasse comme toi ce matin la suggestion que cette formule qui s'appliquait au milieu religieux, en chrétien ou en tant que chrétien, suggère qu'on puisse l'appliquer à d'autres domaines. Et c'est très important parce que passer de l'esprit de parti au parti de l'esprit, c'est beaucoup grâce à cette formule-là. Que si je parle en tant que chrétien, je présume que je parle au nom de l'Église et donc je peux m'octroyer quelques formes d'orthodoxie ou de dogmatisme. Alors que si je parle en chrétien, je parle comme un autre homme qui a des convictions d'un certain type et qui présente à d'autres humains des idées enrichis de telle ou telle chose, mais qui peuvent ne pas être reçus. Bon. Mais pour moi, c'est important pour me dépêtrer du piège où je me suis placé en en associant beaucoup l'émergence de l'intellectuel à la décadence, faut pas avoir peur du mot, à la décadence des nationalistes d'un certain type. Alors, l'idée, c'est de dire le monde, c'est le gars de Cité libre, hein? Donc, le gars du fédéralisme, donc le gars de l'antifédéralisme, de l'antinationalisme primaire, on se comprend bien. Mais quand vous lirez ça, puis surtout le bouquin sur la modernité, vous verrez qu'à l'intérieur même de Cité libre est né le néo-nationalisme. C'est Fernand Dumont, Marcel Rioux, Pierre Vadeboncœur qui reformate un nationalisme de gauche à l'intérieur même de Cité libre. Et donc, c'est possible de parler en nationaliste, mais pas nécessairement en tant que nationaliste, c'est-à-dire en endossant nécessairement les positions de Québec solidaire, du Parti québécois, de la revue L'Action nationale, ou de je ne sais qui, hein, en tout respect, mais on peut, bref, si René Garneau avait été ici ce matin, hein, il aurait pu comprendre comment l'intellectuel peut se positionner dans la nation, hein, parce que il peut être un intellectuel nationaliste critique. Il peut être un intellectuel en nationaliste et non pas en tant que nationaliste, en tant que porteur d'une doctrine spécifique qui vient avec des limites que bien des gens ont voulu justement remettre en cause. Bon, au risque de se contredire, on va peut-être arrêter.
Ben merci beaucoup, Yvan Lamonde, pour cette excellente conférence et merci à tous pour vos questions. Ça a été un bel échange. Évidemment, ce n'est que le prélude à de beaux échanges cet après-midi, puisque nos étudiants ont le plaisir de nous parler, de nous entretenir d'Arthur Buy, Jean-Charles Harvé, Lucky Bersianic, Jean Larose, et j'en oublie certainement. Vous avez, chers amis, une pause d'une heure très précisément, pendant laquelle je vous conseille de manger. Conseil d'amis. Et puis nous nous revoyons à 13h très précisément. Yvan restera avec nous, posera de bonnes questions, bien sûr. Prendre l'appareil. Voilà. Bonne pause, merci.